Radio Star.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
C'est la position clé pratiquement de toute la région. Elle contrôle tout le trafic terrestre. Et PLD est en mesure de contrôler tous les mouvements vers la frontière et à partir de la frontière vers Mekelle-Houech.
Et c'est au milieu du désert que nous sommes, quelque part entre le Mali et la Mauritanie, là où le G5 Sahel et la Mauritanie à sa tête essaient d'agir pour chasser les terroristes qui subsistent dans ces zones-là. Une mission essentielle, mais réalisée avec quels moyens? Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde avec Claude Guibal qui vient de passer du temps avec les militaires et les nomades. Le long des dunes, on y restera longuement, nous aussi. Sous les radars et Amélie Perrier, c'est un coup de colère en Australie. Une femme dans l'hémicycle, je vous le conseille. Vous verrez aussi comment on lutte contre les fake news au Nigeria et que contre les armes à feu aux États-Unis, certains suggèrent des solutions assez baroques. 18h55, le monde à l'envers de Franck Madvon. Ce soir, l'œil sur le vote à venir aux communes au Royaume-Uni et Theresa May, qui pourrait sauver sa peau, allez savoir, et si sa stratégie, en tout cas de mon Brexit ou le chaos, fonctionnait. Avant cela, direction la Pologne et son charbon avant l'ouverture de la COP24, le monde est vaste, et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Nous poursuivons dans le 18-20 toute cette semaine nos thématiques autour de l'environnement avant l'ouverture donc de cette COP24 dimanche en Pologne, à Katowice précisément. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous intrigue finalement aussi, puisque le choix de cette ville charbon, totalement charbon, pour accueillir ce rassemblement dit beaucoup de choses. Peut-être d'ailleurs qu'au contraire, c'est le moyen de nous mettre tous en face d'un principe de réalité. Vous noterez, on en a déjà parlé, que c'est aussi une entreprise minière qui est le sponsor de cette COP. Bonsoir Philippe Chalmin.
Bonsoir.
Vous êtes économiste spécialiste des matières premières. On va y aller à Katowice dans un instant en reportage pour bien comprendre à quoi ça peut ressembler et qu'on voit exactement. Situez-le-nous d'abord, si vous le voulez bien. On est dans le haut lieu de la production charbonnière, en gros. Hein.
Oui, Katowice, c'est la capitale de la Haute-Silésie. C'est effectivement le haut lieu de la production charbonnière. Et la Pologne continue à dépendre pour l'essentiel de son charbon, puisque le charbon représente à l'heure actuelle 71% de la production d'électricité. Là où en France, pour vous situer, on est à 2 ou 3% à peu près. Et où de nombre de pays européens sont pratiquement sortis du charbon, là, la Pologne, c'est incontestablement, un peu avec l'Allemagne d'ailleurs, le pays européen où le charbon reste à la base de la production d'électricité. Et si on élargit d'ailleurs au niveau global du mix énergétique de la Pologne, le charbon en pèse aujourd'hui plus de la moitié.
Alors avec l'idée, l'espoir d'en sortir ou pas, ou est-ce que au fond, si on se tient au principe de réalité et qu'on est très pragmatique, non, il n'y a aucune intention pour l'instant, intention réelle de sortir de cette situation-là.
Bien, les Polonais sont pas idiots, ils se savent très très bien ce que représente le charbon. Le problème, c'est que, un, il faut se souvenir que la sortie du charbon, c'est la fin des gueules noires. Mm-hmm. Ce sont des emplois qu'on perd. On a vu ce que ça représentait en France, au Royaume-Uni. C'est coûteux.
C'est 100 000 personnes, hein, pour dire les choses. C'est 100 000 personnes en Pologne.
Absolument. L'Espagne vient de mettre en place un plan del carbone. Et ils vont sortir du charbon à l'horizon 2023. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus. Et donc, il faut bien se rendre compte que, au total, dans le monde, même pas d'ailleurs la totalité du monde, uniquement Europe, États-Unis et Chine, on compte 4 millions de mineurs de charbon. Donc ça reste une activité essentielle. Et aujourd'hui, quand on regarde les prix, bien le charbon, c'est la matière première la moins chère pour produire de l'électricité. Et c'est moins cher que le gaz naturel, c'est bien entendu moins cher que le pétrole, c'est moins cher que les renouvelables. Alors bien entendu, dans ce coût de production, on n'intègre pas le prix du carbone. Le problème, et ça va être un des thèmes de Katowice de cette COP24, le problème c'est que pour l'instant, la communauté internationale n'a pas été fichue de mettre un prix sur le carbone et un prix suffisamment élevé pour vraiment inciter les gens à cette transition énergétique dont nous rêvons tous et sur lequel il ne faut peut-être pas quand même trop rêver ou du moins mettre des ambitions trop grande. Sortir du charbon est une chose, il n'est pas sûr que le chemin direct soit vers les renouvelables, par exemple.
Alors, et on va y venir. Juste un dernier mot là-dessus, c'est ce que je disais en introduction. Est-ce que le fait de choisir cette ville, c'est aussi finalement quand même une manière de montrer ça, en fait? Est-ce qu'à un moment, les Polonais ont voulu montrer ça? Attendez, le principe de réalité dit quand même des choses qui sont très différentes, y compris de ce qu'on va négocier là tous ensemble.
Oui, alors il y a un peu de provocation
aussi
pour tous les verts et autres verdâtres de la planète qui vont se réunir à Katowice.
Sans parler du sponsor, aussi, effectivement, dont on a déjà parlé, qui est aussi charbonnier.
Mais c'est aussi leur montrer que, en face de ce désir, il y a des réalités industrielles, des réalités humaines, et donc ça ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. En France, nous avons mis au fond pratiquement un demi-siècle à sortir du charbon, parce que nous avions fait un choix qui était celui du nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, dans le mix énergétique français, a à peu près exactement le même poids que le charbon en Pologne. La Pologne, en plus, il faut le rappeler, si elle abandonnait le charbon, elle peut aller un peu vers les renouvelables, mais l'énergie de transition, ce serait le gaz naturel. Or, il se trouve que malgré quelques tentatives, ils n'ont pas vraiment beaucoup de gaz de schiste. Ça voudrait dire du gaz naturel qui viendrait d'où ? Qui viendrait de chez le cher voisin, quand même, dont, avec lequel les relations sont ambiguës. Je veux parler de la Russie. Et donc, le charbon, c'est aussi un élément de l'indépendance non seulement énergétique, mais aussi politique de la Pologne vis-à-vis de la Russie.
Et c'est là que je voulais vous emmener. Les Polonais parlent au fond de leur indépendance énergétique avec le charbon, comme nous on parle du pétrole. On fait semblant de ne pas comprendre que dans un autre pays ça peut être différent, mais leur indépendance passe par là au fond.
Leur indépendance passe par là, comme nous, nous avons gagné notre indépendance par le nucléaire. Le pétrole est une chose, parce que le pétrole, lui, il est incontournable dans la fonction transport. Là, le charbon, c'est la fonction fabrication électrique. D'électricité. Dans la production d'électricité, nous, on s'en est sortis grâce au nucléaire. Les Britanniques s'en sont sortis, alors ils continuent à importer du charbon, mais ils s'en sont sortis parce qu'ils avaient du gaz naturel en provenance en particulier de mer du Nord. D'autres pays, par contre, ne s'en sont pas sortis. Regardez aux États-Unis, où il n'y a que 60 000 mineurs de charbon. Regardez l'insistance qu'a eu Donald Trump pour remettre en cause un certain nombre de textes de l'époque Obama, de manière à remettre le charbon, dont la part diminue d'ailleurs, mais à remettre le charbon au cœur des politiques énergétiques américaines.
Et qu'est-ce qu'on dit des voisins polonais, des voisins allemands, qui eux sont sortis du nucléaire sur une espèce de coup d'émotion intégralement après Fukushima, qui donc désormais sont plus charbonniers? Est-ce qu'il y a une facilité, une propension, une envie plus facile pour les Allemands de sortir du charbon ou pas ?
Eh ben non, la sortie, les Allemands décident, après Fukushima, de sortir du nucléaire. Certes, ils avaient lancé déjà des programmes de renouvelables importants, puisque grossièrement, les énergies renouvelables représentent à peu près la moitié de la production d'électricité en Allemagne. Le problème est que le nucléaire, surtout dans des pays au nord comme les nôtres, est quand même une énergie relativement intermittente. Donc il faut maintenir des capacités de production d'électricité pour les périodes de creux, et ils ont été obligés, et ils continuent à produire de l'électricité à partir de charbon, et même pire, à partir d'une chose encore plus horrible, qui est la lignite, qui elle est encore plus polluante. Donc, le paradoxe, c'est que le taux d'émission de CO2 de l'Allemagne ne s'est pas tellement réduit, et est infiniment supérieur, par exemple, à celui de la France.
Est-ce qu'il est utopique de se dire que dans un pays qui est très au courant évidemment de ces problèmes-là et qui a un parti vert qui est fort, est-ce qu'il est impossible de se dire qu'en une génération, en Allemagne, on pourrait sortir du charbon ou pas ?
On le pourrait. On le pourrait incontestablement, parce que dans le cas allemand, on peut remplacer le charbon par le gaz naturel. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui globalement dans le monde de l'énergie, nous sommes encore très largement à l'âge du pétrole et du charbon. Nous rêvons, et je crois qu'il faut le faire, pour la fin de ce siècle, pour nos petits-enfants, que nous serons à l'âge des énergies renouvelables et non carbonées, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la même chose. Entre les deux, il faut assurer une transition, et cette transition, à mon avis, elle passe pour l'essentiel par le gaz naturel. Et c'est probablement le gaz naturel qui sera l'énergie de transition, ce dont, par contre, nous avons besoin à Katowice, dans cette COP24, dont je suis pas sûr qu'elle accouchera de quelque chose de concret, mais si je fais un rêve, et la plupart des économistes comme moi font le même rêve, c'est d'arriver à mettre en place un prix du carbone qui ne soit pas la vingtaine d'euros la tonne, comme nous l'avons aujourd'hui sur le marché européen, qui soit à 50, voire à 100 euros la tonne. C'est vrai qu'à 100 euros la tonne, là, les équilibres changeraient totalement et on pourrait effectivement aller et faire le choix de ces énergies qui seraient moins émettrices de CO2.
De CO2 et aussi de particules fines d'ailleurs quand on songe au charbon. Donc s'il y a un effet cumulé pour ce qui est du charbon. Je vous ai promis un aller-retour à Katowice, comme vous dites. Katowice ou Katowice alors?
Katowice.
Eh ben,
j'en sais rien.
En Pologne, dans cette ville où s'ouvrira la COP 24 ce dimanche, c'est Thomas Giraudeau qui nous y emmène. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire en fait, la ville charbon réellement.
Avec sa pelle, Grzegorz Pieczyk puise dans ses réserves pour l'hiver un grand tas de 2,5 tonnes de charbon stocké dans la cave de sa maison. Le temps de remplir le poêle, la trappe ouverte laisse sortir une fumée noire qui envahit la pièce.
Le charbon me coûte environ 2000 zlotys, moins de 500 euros par hiver. Ce n'est pas cher. Et puis le charbon est extrait ici, dans la région. Donc je ne suis pas dépendant d'autres pays. Enfin, à vrai dire, on peut brûler n'importe quoi dans ce poêle. D'autres gens, plus pauvres, brûlent leurs déchets, tout ce qu'ils trouvent pour se chauffer.
Grzegorz, lui, voit bien la fumée noire qui s'échappe de sa cheminée. Cette pollution, il a tenté d'y remédier en bénéficiant d'un grand plan du gouvernement, Air Pur, qui aide les habitants à changer de mode de chauffage. Mais sur les plus de 9000 euros qu'il devait dépenser, un quart seulement remboursé par l'État, il a donc laissé tomber.
Le problème, c'est que les autres énergies ne sont pas forcément très sûres. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie que le gaz sera encore accessible dans quelques temps, car il vient de Russie et on a toujours des tensions diplomatiques avec les Russes. Le charbon, lui, vient des mines polonaises. Et puis même si moi, je cessais de brûler du charbon, beaucoup d'autres personnes continueront à le faire. Donc la pollution va se poursuivre. Ça ne sert à rien d'agir seul.
Quelques kilomètres de là, au centre des maladies cardiaques de Zabrze, le professeur Andrzej Lekston constate les conséquences du chauffage au charbon sur la santé des habitants de la région. Chaque année, plus de 47 000 Polonais meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air.
Quand il fait froid, l'automne et l'hiver, les gens utilisent leur poêle à charbon. La pollution augmente et beaucoup plus de personnes viennent dans notre hôpital. Nous avons fait des recherches ici, au centre hospitalier. Quand le niveau de pollution est très élevé, le taux de mortalité augmente brutalement de 6%.
Selon Patrick Biawas de l'association environnementale locale Bomiasto, les frais de santé dus à la pollution de l'air coûtent chaque année près de 25 milliards d'euros à la Pologne. Il y a donc urgence à agir et à aider davantage les habitants.
En Pologne, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de changer leur mode de chauffage. C'est la responsabilité du gouvernement de les soutenir. Or, il y a un énorme fossé entre la propagande du gouvernement, ses promesses et la réalité du terrain. Tenez, leur programme de soutien financier, par exemple. Eh bien, les procédures pour en bénéficier sont si compliquées. Au début, les gens sont intéressés, mais à la fin, une majorité d'entre eux laissent tomber ou sont recalés.
Et puis le gouvernement continue toujours de soutenir financièrement et massivement le secteur du charbon et ses 100 000 employés. La semaine dernière, il a même annoncé l'ouverture de nouvelles mines, tout en promettant de développer des sources d'énergie alternatives comme le nucléaire.
Thomas Giraudeau pour le reportage en Pologne. Merci beaucoup Thomas. Philippe Chalmin, dans ce que vient de dire à l'instant Thomas pour conclure son reportage, d'abord effectivement on subventionne le charbon évidemment en Pologne, pas seulement en Pologne d'ailleurs, mais on le subventionne pour qu'il soit maintenu en vie.
Oui et non. Dans la mesure où, par exemple, en Chine, ça reste... Alors, les autorités chinoises ont fait de gros efforts pour fermer les mines les plus marginales et les moins sûres. Il y avait énormément d'accidents miniers en Chine. Mais le charbon, même non subventionné, il tient la route. Si on ne mettait, si on n'a pas de taxes, si on ne fait pas payer le prix du CO2, le charbon, il est extrêmement rentable face aux autres sources d'énergie. Et ça, il faut vraiment le rappeler.
Et alors, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est, et c'est d'ailleurs ce que dit l'un des sponsors de la COP, c'est oui, mais nous, on fait du charbon propre. Le charbon propre, est-ce que c'est du n'importe quoi, ou est-ce que effectivement, aujourd'hui, ce qu'on est capable de produire envoie moins de particules fines dans l'air à minima.
Ça, on en voit certainement moins. Le charbon totalement propre me paraît quand même très très loin. Vous avez quand, vous pouvez avoir des conditions de production qui sont bien meilleures, notamment toutes les grandes mines à ciel ouvert en Australie. Ensuite, c'est le problème des centrales thermiques. On peut effectivement réduire les émissions de CO2 de manière assez importante des centrales thermiques de dernière génération, les centrales mixtes, charbon, gaz, etc. Néanmoins, il faut pas se leurrer, ce sera toujours inférieur, supérieur en termes d'émissions de CO2 à des barrages hydroélectriques et au nucléaire, qui sont incontestablement les deux énergies les plus propres qui soient.
Alors, et ce qu'il faut aussi, et ce sera la conclusion, Philippe Chalmin, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, pour éviter de donner l'impression que ces pays qui restent des pays noirs sont complètement... j'arrive pas à trouver mes mots. ne font rien pour ce qui est d'énergie renouvelable, c'est pas vrai. La Pologne investit aussi dans l'énergie renouvelable. La Chine investit aussi dans l'énergie renouvelable. Peut-être même plus que nous, en fait.
Ah bah, incontestablement, la Chine est le premier producteur mondial d'énergie renouvelable. Le problème, c'est qu'avec la croissance économique chinoise, ils auront besoin, à l'horizon 10-15 ans, la part du charbon va diminuer dans le mix énergétique chinois, mais en valeur absolue, la demande de charbon va continuer à augmenter. Et quand on parle de la Pologne aujourd'hui, elle est à peu près dans sa production d'électricité, il y a 20% de renouvelables, exactement le même chiffre que la France, par exemple, sachant que dans le renouvelable, on intègre l'hydroélectricité, et donc la part d'énergie renouvelable nouvelle, solaire, et dans le cas de la Pologne, surtout éolien, elle est plus forte qu'en France. Donc, arrêtons de ce point de vue-là de donner des leçons, sachant que, c'est vrai, le renouvelable augmente un petit peu partout, et surtout, nous avons devant nous des innovations en termes technologiques. On raisonne pour l'instant sur le renouvelable, l'éolien, le soleil. Moi, je crois personnellement énormément, par exemple, à la biomasse.
Eh ben écoutez, on verra ça ensemble. En tout cas, c'est des choses qu'on est content d'avoir en tête avant le démarrage de la COP24. Et comme vous le disiez, effectivement, les plus vertueux ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Allez, je vais essayer de remettre mes mots dans l'ordre pour la suite d'Un jour dans le monde, dans le désert du Sahel, quelque part entre le Mali et la Mauritanie, où nous emmènera Claude Guibal. Ce sera l'escale reportage avec les militaires du G5 Sahel, qui manquent de tout pour être efficaces, avec une menace terroriste qui pèse encore sur cette région, qui perturbe aussi la vie locale. On croisera des nomades également dans ce reportage, sous les radars, et Amélie Perrier, avec une grosse colère parfaitement saine d'une députée australienne contre le sexisme. On parlera aussi d'un programme de lutte contre les fake news, et ça se passe au Nigeria, et puis d'un saut de caillou pour lutter contre les armes automatiques aux États-Unis. Le Monde à l'envers. Et Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
Et si elle gagnait la partie, la Theresa May, alors ?
Eh bien oui, hein, tout est contre elle, mais je fais le pari ce soir, ici, pari hasardeux, que Theresa May peut faire adopter son accord sur le Brexit signé avec l'UE.
Eh bien écoutez, on prend note, en tout cas il est 18h37, on saura que c'est ce que vous avez dit à ce moment-là. Franck, le tour de la planète n'est pas fini, il continue, il passe par l'Espagne avec Rosalia, Pienso en tu mira.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo y de la luna. Yeah.
Rosalia sur France Inter. Vous aimez ça, vous, Amélie Perrier?
J'adore Rosalia.
Eh ben, Bajolo sera la Radares, c'est maintenant. Difficile à
France Inter. Good evening and welcome. Je
размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Radares.
Radares.
Bajolo sera Radares sur les radars. Synthèse. Excusez-moi. Attendez, je ne suis pas suédoise non plus. Amélie, on parlait de faire venir un psychiatre à l'Assemblée de Tunisie, c'était hier, ouais. Dans Sous les radars. Les débats sont très agités aussi en Australie.
Et tout est parti d'un élu à l'humour plutôt graveleux, disons-le carrément machiste. C'est le sénateur Barry O'Sullivan du Parti libéral national du Queensland. À propos de la sénatrice verte Sarah Hanson-Young, il dit devant l'Assemblée, il y a un petit peu de Nick xénophone en elle. C'est le nom d'un autre sénateur qui la soutient sur son projet de loi. Il insiste, il n'y a pas de double sens dans ce que je dis, mais il y a un peu de lui en elle. Trop, c'est la blague lourde de trop pour Sarah Hanson-Young. Voilà ce qu'elle lui répond à la tribune.
I, for one, am sick of it.
J'en ai marre. Et je sais que nombre de mes collègues femmes ici, de tous les bords politiques, en ont marre aussi. Et je vais vous nommer, parce que vous n'êtes pas fait pour siéger dans cette chambre, vous n'êtes pas fait pour représenter vos concitoyens, vous ne méritez même pas d'être considérés comme des hommes. Et elle les nomme.
Senator O'Sullivan, Senator Annie, Senator Bernardi, Senator Lionhelm.
Et voilà, elle conclut, vous êtes des lâches.
Et toc, voilà. Bien envoyé.
Il n'y a pas que les politiques qui sont aujourd'hui épinglés dans cette histoire, puisque un journal libéral a évoqué ces débats en publiant une photo de la sénatrice cadrée uniquement sur sa poitrine. Avec ce titre, on ne gagne pas un débat avec les seins à l'air.
Super.
Oui, il y a encore beaucoup de travail dans tous les milieux.
Comme vous dites, la politique qui dérape, ce sont aussi ces rumeurs, ces fausses informations que l'on répand, et nous allons au Nigeria.
En vue de la présidentielle et des législatives de l'an prochain, les médias viennent de conclure un pacte inédit. Une quinzaine d'entre eux lancent un programme de lutte contre la désinformation. Ça s'appelle le Cross Check Nigeria, en collaboration avec une ONG britannique. Plus question de concurrence entre les chaînes et les journaux. Là, tous ces journalistes vont traquer ensemble les discours faux, comme nous le raconte Ronke Radje, elle est chroniqueuse à Channels TV. À mesure qu'on va s'approcher des élections, dit-elle, les politiques vont concevoir de nombreuses manières de diffuser de mauvaises informations. Donc c'est primordial d'assister à la naissance de ce projet. Peut-être qu'avec tous les efforts des médias et des journalistes, on va pouvoir réduire au minimum le nombre de fausses nouvelles diffusées au public. Alors voilà, la campagne électorale au Nigeria s'annonce rude et féroce entre le président sortant, Buhari, il brigue un nouveau mandat, et son concurrent, un richissime homme d'affaires, ancien vice-président. Et parmi les infox récentes, un exemple, celle de la mort du président Buhari, il aurait été cloné, oui, ou encore remplacé par un sosie, une rumeur issue d'un groupe séparatiste biafrais. Et dans ce pays profondément divisé entre nord musulmans et sud chrétiens, ce genre d'information peut être l'étincelle qui embrase les rivalités.
Allez, pour finir, comment lutter contre les fusillades aux États-Unis?
Alors nous, on serait tenté de proposer peut-être un meilleur contrôle des armes, mais vous savez que le débat s'échoue sans cesse sur le très puissant lobby des armes, la NRA, aux États-Unis. Alors, à l'université d'Oakland, dans le Michigan, le chef de la police, Mark Gordon, a eu l'idée de distribuer des palets de hockey. L'université en a commandé 2500, elle en a déjà distribué 800, et si un assaillant armé se présente, jetez-lui un palet de hockey.
As we go into the election, politicians are going to devise all manner of...
Si vous jetez... Alors non, c'est pas le bon son, mais...
On a compris le principe, en fait.
Ouais,
si on jette à la figure le palais...
C'est le chef de la police hein, qui dit ça. Si on vous jette si vous le jetez à un homme armé, ce palais de hockey, ça devrait le blesser ou en tout cas faire diversion. Des étudiants ne cachent pas leur scepticisme, mais c'est peut-être pas la solution la plus absurde. En Pennsylvanie, une école a annoncé cette année avoir installé des sauts de cailloux dans les classes. Ouais. Dans le même état, les autorités ont décidé ensuite de fournir aux enseignants des battes de baseball, mais des battes miniatures. Mm-hmm. Et puis ailleurs, aux États-Unis, on y va sans détour, là... On fournit des armes, des vrais, aux professeurs.
Voilà, formidable. Progrès fait rage, comme on l'entendait beaucoup sur Inter à une période. Merci beaucoup, Amélie.
France Inter.
Doha. Harare. Jérusalem.
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul. Washington.
São Paulo.
Beyrouth. France Inter.
Et comme promis, c'est donc dans le Sahel que je vous emmène pour une longue escale reportage ce soir dans Un jour dans le monde. Le Sahel, c'est très vaste évidemment et nous allons très précisément juste à la frontière entre la Mauritanie et le Mali avec vous. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
On va y rester un petit peu dans ce coin-là Claude, grâce à vous. Vous avez pu y naviguer avec les forces armées, vous allez nous remettre d'ailleurs en tête l'opération Barkhane, les forces des Nations Unies, etc. Comment on a tenté, on tente encore d'éradiquer le terrorisme dans ces zones-là. Or, le Mali reste un foyer pour les groupes djihadistes qui continuent de faire régner la terreur dans toute la région. En face, il y a la Mauritanie à la tête du G5 Sahel, en première ligne dans cette lutte contre le terrorisme. Racontez-nous, vous en revenez tout juste.
Oui, Fabienne, la Mauritanie, en fait, ça a été un des premiers pays de cette zone à avoir été touché par le djihadisme. C'était au début des années 2000. Alors, c'était vraiment la terreur hein, qui frappait partout jusqu'à Nouakchott, la capitale. Et cette époque, Fabienne, eh bien, je me la suis fait raconter. C'était un soir hein, de la semaine dernière. Imaginez, on était dans un caravan sérail au milieu du désert, à la nuit tombée. Et puis il y a cet homme qui m'a parlé. Cet homme s'appelle Ahmed Salem Mokhtar Salem.
Tout était en paix, on vivait en paix. Et subitement, il y a eu la première opération de Mokhtar en 2003. Et à partir de là, la vie des citoyens s'est transformée en enfer. Nul n'était sûr qu'il allait se réveiller le matin, sain et sauf. Et puis la croissance des opérations terroristes contre le pays sont accentuées. À partir de 2008, l'armée mauritanienne s'est investie dans la lutte contre le terrorisme, dotée de matériel de qualité. Et à partir de pratiquement de 2011-2012, tout est devenu calme. On avait prévenu nos frères maliens que si l'armée malienne ne resserre pas les rangs et prenne des dispositifs plus sérieux, elle sera investie par le terrorisme.
Et c'est bien ce qui s'est passé, hein, Claude.
Oui, la suite, Fabienne, on la connaît. Hein, la prise de contrôle du Nord-Mali par les djihadistes en 2012. Ces djihadistes qui ont été stoppés par l'armée française. C'était l'opération Serval, remplacée depuis par Barkhane. Au Mali, les Nations Unies ont, elles, les casques bleus de la MINUSMA et les pays de la région. Eux, eh bien, ils se sont regroupés dans le G5 Sahel, qui s'est doté, il y a un an et demi, d'une force conjointe régionale pour opérer aux frontières. Alors, à la tête du G5 Sahel, maintenant, il y a la Mauritanie, vous l'avez dit, qui est souvent décrite comme le bon élève sécuritaire hein, de cette région, grâce à sa politique sécuritaire, donc très, très volontariste, la réorganisation en profondeur de ses services de sécurité et une méthode, disons-le, plutôt dure. En tout cas, ça a permis à la Mauritanie de reprendre le contrôle de son territoire. Pas d'attentat sur son sol depuis 2009. Et ça a permis, l'an dernier, que le Quai d'Orsay revoie en fait ses préconisations pour les voyageurs qui reviennent désormais dans des zones sécurité, comme le désert de l'Adrar. L'armée, en revanche, garde le contrôle absolu sur la frontière.
Et c'est justement là que vous vous êtes rendu, Claude.
Oui, dans une zone qui est donc encore classée rouge. Et là où je vous emmène, les frontières, en fait, ce sont des frontières de sable. Sur des véhicules militaires, des silhouettes enturbanées de kaki, au visage masqué, montent la garde au milieu des dunes. Le Mali, il est là, juste devant nous.
Le Mali, c'est aussi bien au nord-est qu'à l'est, qu'au sud-est, qu'au sud même. C'est la position clé pratiquement de toute la région. Elle contrôle tout le trafic terrestre. Et puis elle est en mesure de contrôler tous les mouvements vers la frontière. Et à partir de la frontière vers Mbeke Lahouach, les hommes sont assez entraînés déjà sur toutes sortes de combats, en particulier la menace asymétrique. Ils sont là pour ça.
La menace asymétrique dont parle le colonel Sidi Ahmed Oul Mohamed, ce sont les groupes armés djihadistes qui sont là de l'autre côté de la frontière. Parmi eux, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a rejoint l'alliance djihadiste dirigée par Iyad Agali. Ou encore la Katiba Massina, dont le chef Amadou Koufa aurait été tué il y a quelques jours à peine dans une frappe de l'armée française. Ces soldats, ce sont ceux du bataillon mauritanien du G5 Sahel, en première ligne sur la frontière. Dans sa tente, le médecin du bataillon compte ses trousses d'urgence.
C'est à chaque militaire doit avoir un trousse individuel. Pour le moment, on n'est pas assez, mais chaque militaire doit avoir un trousse individuel. C'est avec le bétadine, avec le sparadrap.
Ici, même si on se dit opérationnel à 80%, il manque de tout, des armes, des bâtiments, du matériel. Le financement du G5 Sahel, promis par la communauté internationale, ici, il arrive à peine au goutte à goutte. Et il ne se suffit pas à lui seul, car ici, pas de sécurité possible sans développement. Ni les armes ni les radars ne suffisent pour surveiller le désert. Les seuls à en maîtriser les secrets, ce sont les tribus locales, les nomades touaregs au visage masqué de bleu, les éleveurs, comme ce vieil homme qui apparaît dans la poussière des pick-up.
Assalamu alaikum.
Ces éleveurs, pourtant, sont de moins en moins nombreux. Abder Benderdouche dirige le RIMRAP, un des chantiers agricoles financés par l'Union européenne.
Le pastoralisme, depuis quelques années, au regard de la situation dans le Sahel, c'est une activité qui est extrêmement perturbée. Il y a certainement une corrélation entre le recul du pastoralisme et les phénomènes de développement des activités illégales et évidemment de narco-djihadisme, de terrorisme, etc. Parce que beaucoup de ces populations de pasteurs ont vu leurs activités tellement compromises du fait de difficultés au déplacement, difficultés d'accès à la ressource. Depuis quelques années, l'État a disparu, les missions régaliennes qui concernent ces populations et leurs activités ne sont plus mises en œuvre et on se retrouve avec des populations qui n'ont plus le moyen de pouvoir mener leurs activités comme ils le font depuis des lustres.
Pour pérenniser la présence ici des populations, pour ne pas laisser la région aux seules mains des trafiquants et des djihadistes, tout est à faire. Soins vétérinaires, forage de puits sur la route des nomades. Ces nomades, dont le territoire s'étend loin de la frontière invisible. Le Mali n'est qu'à quelques encablures à dos de chameau. Nouakchott, la capitale mauritanienne, est-elle à presque 40 heures de route. Une autre planète, un autre pays. Claude, on vous écoute, on vous entend. Et ce qu'on comprend surtout, c'est que sécuriser cette zone, c'est quasi mission impossible, non ?
En fait, en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il y a cette sécurisation, donc avec l'armée. Et ce qui est essentiel aussi, et ça peut paraître en fait paradoxal en milieu désertique, c'est de privilégier aussi l'humain, le renseignement humain. C'est pour ça que finalement, investir dans le développement, c'est très capital à tous les points de vue. Je vais vous donner un exemple de ce village où on s'est rendu, un village qui est situé au pied d'un plateau qui donne en fait sur le Mali. Et là, Il y a un passage, enfin c'est pas un vrai passage, c'est juste une passe par laquelle des djihadistes ont essayé de s'infiltrer il y a quelques années. Or ici, eh ben, il n'y a pas de couverture téléphonique. Donc pour prévenir les autorités, il faut quand même être motivé, se jeter sur un chameau, aller prévenir l'armée plutôt que de faire semblant d'avoir rien vu. Il faut aussi en avoir envie, c'est-à-dire qu'il faut se sentir partie prenante de cette lutte antiterroriste. Et c'est pour ça que le programme européen d'appui à la Mauritanie mise absolument sur les projets mixtes qui sont à la fois militaires et civils, sur ce principe sécurité. Sécurité et développement, donc pour construire des écoles, un hôpital mobile militaire qui va servir aussi aux civils, tout ça, je vous l'ai dit, c'est pour fidéliser le soutien de la population et assurer leur présence dans ces endroits clés.
Oui, mais sauf que les djihadistes sont toujours actifs de toute façon dans la région et malgré la multiplication, y compris des forces militaires d'ailleurs.
Oui, au Mali, il y a toujours Barkhane, il y a la MINUSMA et puis donc il y a cette force conjointe du G5 Sahel, donc créée il y a un an et demi et toujours pas très opérationnelle parce que les financements traînent toujours à arriver. Et c'est vrai que quand on dit que le G5 Sahel n'est pas très opérationnel, ça fait bondir le président mauritanien Mohamed Oud Ben Abdelaziz.
Si on compare, on relativise les choses, le G5 n'a pas échoué. Nous avons d'un côté 5 pays qui sont engagés, qui sont regroupés, qui sont organisés pour créer une force qui ne demande que 400 et quelques millions pour démarrer et 100 et quelques millions pour fonctionner annuellement et qui veulent arriver à leur fin. Et de l'autre côté, nous avons toute une communauté internationale qui peut-être ne comprend pas ce que nous subissons et ce que nous vivons. Si on compare G5 Sahel et la mission du côté MINUSMA, on s'en rend compte que le G5 n'a pas échoué. D'abord, il n'a pas de moyens. Il fait avec le peu de moyens qu'il a. Nous faisons ce que nous pouvons faire avec beaucoup de promesses. Alors que la MINUSMA a énormément de moyens. Elle a engagé plus de 13 000 hommes, dépense plus d'un milliard de dollars par an et elle ne fait que subir.
Vous entendez, Fabienne, donc des mots très durs.
Il fait avec le peu de moyens qu'il a, on a bien entendu ça.
Voilà, et la semaine prochaine, juste, je vous le précise, a lieu en Mauritanie, justement, une conférence qui va se pencher à nouveau sur le financement de ce G5 Sahel.
Et que vous suivrez pour nous, Claude Guibal, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Et c'est Moriarty qu'on entend. Jimmy.
You please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die.
France Inter. Dommage de la couper, on est obligé, Franck Madvon est là.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers, Franck. Il reste 12 jours à Theresa May pour convaincre le Parlement britannique d'approuver l'accord sur le Brexit qui a donc été adopté par l'Union européenne. En l'état actuel des choses, on l'a beaucoup dit dans Un jour dans le monde, on voit pas très bien comment la Première ministre parviendrait à faire voter ce texte. Il lui manque des dizaines de votes parlementaires. Mais Franck, vous mettez une pièce sur l'adoption du texte par la Chambre des communes, et c'est votre monde à l'envers.
Ouais, alors bon, à première vue, hein, soyons clairs, ça se présente mal quand même, Fabienne. Theresa May a besoin d'environ 320 votes aux communes pour faire adopter l'accord signé avec l'UE dimanche. Aujourd'hui, il lui en manque près d'une centaine, rien que ça. Le Parti conservateur compte 316 députés, mais on le sait, des dizaines d'entre eux sont opposés à l'accord. D'abord, une bonne cinquantaine d'élus veulent un Brexit dur. Pour eux, le texte ne coupe pas franchement les liens avec l'UE. Il proteste aussi contre la facture que le Royaume-Uni doit payer à l'Europe, 40 à 45 milliards d'euros. 10 à 15 députés conservateurs sont eux favorables au maintien dans l'Union. Ils seraient favorables à un second référendum et voteront donc contre l'accord. Et puis d'autres n'ont pas encore dévoilé leur choix.
Et oui, parce que les autres partis ne vont pas faciliter la tâche de Theresa May.
Alors à commencer par ses alliés, les Nord-Irlandais du DUP, 10 élus seulement, mais ils lui permettent d'avoir la majorité aux communes. Et bien pour eux, ce sera la solution trouvée au problème de la frontière irlandaise ne leur convient pas du tout. Pour faire court, Fabienne, l'accord reporte la question à plus tard. En attendant, l'Irlande du Nord sera soumise aux règles européennes et c'est hors de question pour ces unionistes qui sont plus proches de Londres que de Dublin. Les 35 députés nationalistes écossais sont eux aussi bien sûr vent debout contre l'accord. Ils l'ont toujours dit, ils veulent rester dans l'UE. L'Écosse avait voté massivement contre le Brexit. Les libéraux démocrates, europhiles, rêvent d'un second référendum. Quant au parti travailliste de Jeremy Corbyn, 259 élus, il estime que le texte signé à Bruxelles dimanche laisse trop d'incertitudes sur l'avenir.
Et donc, malgré tout, pour vous, c'est pas perdu pour Theresa May?
Non,
vous êtes un optimiste,
la
comme
première
garçon.
Ministre est désormais en campagne. Cela dit, j'avais parié quand même pour le non au Brexit.
Oui,
hein,
nous
en
aussi,
2016.
Vous savez, et pour Hillary Clinton, enfin, oh, c'est pas grave.
Alors, Theresa May donc sillonne le pays à la rencontre des électeurs, de la base de son parti. Elle est en campagne, en fait, Theresa May. Et pour la première fois peut-être, elle a un projet à défendre, un texte de 600 pages à vendre aux Britanniques. Dans une lettre à la Nation dimanche, Theresa May leur promet d'œuvrer corps et âme pour cet accord, un deal qui est à ses yeux la seule option possible. Et toute la machine gouvernementale s'est mise en branle. Hier, la Banque d'Angleterre a prévenu, sans accord ce sera la crise, chute de la livre, montée du chômage, le Royaume-Uni a peur. Même le CBI, le puissant syndicat des patrons britanniques, soutient l'accord de Madame May.
Et puis le dernier argument, Franck, c'est qu'au fond, elle l'a montré, elle a de la ressource, la Theresa May.
Ben oui, on l'a très souvent donnée battue, humiliée, et elle s'est toujours relevée. Elle pourra d'abord compter sur le vote de quelques travaillistes qui entendent bien respecter le référendum de 2016 sur le Brexit. Elle va surtout essayer s'employer à convaincre les députés conservateurs. Si vous rejetez le texte, leur dit-elle, vous risquez de perdre votre siège. Elle a reçu hier le soutien d'une élue de poids, Andrea Leadsom, figure des pro-Brexit, qui est secrétaire d'État chargée des relations au Parlement. Theresa May donc a encore de la ressource, elle a même vu sa popularité bondir de 13 points, tenez-vous bien, la semaine dernière. Une adoption de l'accord en deux temps est même possible également. Ceux qui pensent voir Theresa May définitivement vaincue le 11 décembre pourraient donc être déçus.
Eh bien écoutez, on retiendra votre pronostic, Franck, en tout cas le même que Theresa May, mon Brexit ou le chaos, et on verra ça évidemment ensemble. Merci beaucoup, le 18-20, la suite c'est le téléphone sonne. Avant cela, le journal de 19h.